Radio Okapi.
De cette première édition, toujours pas de rapport de la commission parlementaire sur les incidents de Bakata Katanga à Lubumbashi. C'est ce que déplore le député national Claudel Lubaya. Le rapporteur de l'Assemblée, lui, affirme que cette préoccupation avait déjà trouvé réponse. L'actualité, c'est aussi la question autour de la prolongation du mandat de la MONUSCO en RDC. Martin Kobler a répondu à cette question hier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le 4e sommet Union Européenne-Afrique a ouvert ses portes hier à Bruxelles. Objectif, comment approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, la prospérité et la paix. L'actualité de ce jour nous amène d'abord à l'Assemblée nationale. Une année après les incidents de Bakata Katanga à Lubumbashi, le rapport de la commission parlementaire n'est toujours pas publié. Une situation que déplore un des membres et rapporteurs de cette commission dans une déclaration hier mercredi à Radio Okapi. Il s'agit du député national Claudel Lubaya. Selon lui, la commission avait déjà transmis le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Cependant, le député ne sait pas s'expliquer le retard que prend la programmation de ce rapport pour examen en plénière. Entre-temps, affirme-t-il, la province concernée a des difficultés à retrouver une paix durable. On écoute Claudel Lubaya au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Je peux confirmer qu'au niveau de la mission, le travail a été fait, les auditions ont été faites, un certain nombre de personnes avaient été entendues à l'époque, de descentes avaient été effectuées sur le terrain, sur le théâtre des différentes opérations. Pourquoi ce rapport n'a jamais fait l'objet d'examen en plénière de l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur? Parce que je sache, il n'était pas destiné à être jeté dans les tiroirs, plutôt à être examiné. Je regrette d'ailleurs le fait que depuis lors, il y a silence radio du côté du bureau, mais en même temps, la situation ne s'est pas améliorée. On parle maintenant d'un triangle de la mort dans le nord Katanga, mais en même temps, chaque jour, chaque week-end, on parle des incursions de Maïmaï, on parle de cas de meurtre, de cas d'invasion. C'est quand même préoccupant, mais c'est en même temps aussi gênant.
Réaction du bureau de la Chambre basse du Parlement. D'après le rapporteur de l'Assemblée, cette préoccupation avait déjà trouvé réponse. Relayant les propos du président de la Chambre basse, le rapporteur affirme qu'à la présente session, le bureau prendra soin de programmer les rapports des missions. La priorité sera accordée, toujours selon lui, à la question de Bakata Katanga et celle de la TVA. Le rapporteur Ezadri ajoute que la plénière était d'accord avec cette disposition annoncée lors de l'adoption du calendrier. Politique encore, reprise du processus de l'élection partielle du vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu. Selon le rapporteur de la CENI, un nouveau calendrier réaménagé pour cette élection a été publié hier mercredi 2 avril. Selon ce calendrier, le processus de dépôt, le traitement et la publication des candidatures seront amorcés à partir du 4 avril prochain. L'élection du vice-gouverneur proprement dite aura lieu le 14 mai prochain et sera suivie de la publication du résultat le même jour. La publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Bukavu interviendra le 30 mai. Ce processus, rappelons-le, a été suspendu en janvier dernier pour manque de candidature, ce poste étant réservé au parti MSR. On écoute ici le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Mulumba. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous avions suspendu les processus au motif des manques de candidature. À ces jours, nous relançons les processus. La procédure reprend son cours normal. Les candidats doivent se présenter officiellement à notre bureau de réception et traitement des candidatures qui sera ouvert auprès du secrétariat exécutif provincial au niveau de la ville de Bukavu comme chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Et de là, on aura à traiter ça correctement et on finira par transmettre ça au bureau de la CENI à Kinshasa qui pourra examiner de la validité et rendra une décision de déclaration de candidature recevable et non recevable. C'est ça la procédure classique. Ici, le bureau, à travers la plénière, n'a pris qu'une décision de réouverture du processus de l'élection partielle du vice-gouverneur.
Préparer une stratégie de retrait de la MONUSCO, c'est l'une des dispositions de la résolution 2147, votée la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger le mandat de la mission onusienne en RDC. Le chef de la MONUSCO y est revenu hier mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Plusieurs questions des journalistes ont d'ailleurs tourné autour de ce sujet. Écoutez la réponse de Martin Kobler au micro de Innocent Olinga.
La MONUSCO va partir du pays graduellement, ça durera un peu, mais c'est très important d'avoir une vision, c'est très important d'avoir la stratégie, c'est très important de ne créer pas l'impression que nous sommes ici pour l'éternité. C'est le but, l'objectif de cette résolution. Le futur des Nations Unies en RDC, c'est l'équipe pays, c'est pas la MONUSCO. La MONUSCO doit partir, mais on va discuter avec le gouvernement, on va discuter avec la société civile, on va discuter avec nos partenaires ici. Mais la première tâche, c'est de créer la stabilité et la sécurité, de développer la consolidation de l'autorité de l'État, d'avoir l'État de droit, d'avoir la réforme du secteur de sécurité, d'avoir en place la force de réaction rapide qui va remplacer la brigade d'intervention. Ce sont des étapes, ça dure de temps.
Au sud Kivu, des centaines de familles des déplacés arrivent depuis deux jours à Lulingi et Kisasa, dans le territoire de Shabunda. Selon le chef de poste d'encadrement administratif de Lulingi, ces familles fuient les affrontements entre deux groupes Raya Mutomboki au village Mbese et Lumba sur l'axe routier Bukavu-Shabunda. Des détails dans ce reportage d'Emilie Sadiki de la radio Mutanga, rendu par Benjamin Yogolelo.
Le nombre des ménages des déplacés s'élève à plus ou moins 300 à Lulingu. Selon le chef de poste d'encadrement de cette entité, la dernière vague des déplacés est arrivée hier en provenance des villages Mbese et Lumba. Les deux villages sont situés à plus de 70 km à l'ouest de Shabunda Centre. Pour Henriette Wabaka, ces déplacés fuient l'intrusion des éléments Raya Mutomboki du groupe Sisawa dans leur village. D'après elle, cette milice accuse les déplacés de collaborer avec un autre mouvement rival dénommé Alexandre. Ceci après affrontement entre les deux groupes. Selon les sources locales, un autre mouvement de population s'observe à Kisasa, à 150 km au nord-est de Shabunda Centre. Selon le président de la société civile de Baliga, les habitants de cette localité fuient la présence des Raya Mutomboki à Kinsuka, à plus de 40 km de Kisasa. Ici, ces miliciens ont arrêté et torturé 20 personnes. Ces hommes ont été relâchés après paiement d'une somme de 80 000 francs congolais. Toutes ces informations sont confirmées par l'administrateur du territoire de Shabunda. Daniel Elo Konsala demande aux miliciens de déposer les armes et d'intégrer le processus de démobilisation.
En dehors du pays, c'est cette ouverture hier mercredi à Bruxelles du 4e sommet Union Européenne-Afrique, son thème, investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Cette rencontre réunit pendant deux jours les chefs d'État d'Europe et d'Afrique. Ils examinent ensemble comment approfondir la coopération dans ces trois domaines. Plus de 40 chefs d'État sont présents à ce sommet. La RDC est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Depuis Bruxelles, notre envoyé spécial Kéline Kouté revient sur ce qu'a été la journée d'ouverture.
Plusieurs discours ont sanctionné cette première journée. Prenant la parole en premier, le président du Conseil européen a souligné que le thème choisi centrait notamment sur la sécurité et les perspectives d'emploi, rapport aux préoccupations quotidiennes des citoyens d'Afrique et d'Europe. Pour Herman Van Rompuy, l'Union européenne et l'Afrique vont s'unir pour relever les défis auxquels les deux continents sont confrontés, ainsi que ceux qui se posent à l'échelle mondiale. Le président de la Commission européenne, quant à lui, a mis l'accent sur le partenariat d'égal à égal. Pour lui, les deux continents doivent saisir des nouvelles opportunités de coopération en élargissant les liens politiques, économiques et interpersonnels. Côté Afrique, c'est la présidente de l'Union africaine qui s'est notamment exprimée. Kosazana Dlamini Zuma a salué l'organisation de ce sommet en souhaitant que les problèmes sécuritaires qui se posent en Afrique soient une priorité pour ces deux continents. On a noté aussi la présence à ce sommet de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui n'a pas manqué d'encourager le partenariat Union européenne-Afrique. Depuis Bruxelles, Kéline Kouté, Radio Kapi.
Revenons en RDC. À Kananga, au Kassai occidental, le musée national dénonce la spoliation de sa parcelle et la menace de déguerpissement dont il est l'objet. Il est objet de la part des autorités politico-administratives, notamment du directeur de province. Dans une correspondance adressée au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, le directeur du musée national de Kananga parle d'une vente de cette parcelle à la direction générale des impôts. Allégation que rejette le ministre provincial de l'Intérieur du Kassai occidental. Sénégal. D'après Faustin Kambala, il n'y a ni spoliation ni vente de ce bâtiment de l'État, confié non pas au Musée national mais plutôt à la division de la culture et art. Écoutez ces explications au téléphone de Innocent Olinga.
Dans sa politique de rénovation ou de modernisation des infrastructures de la province, le gouverneur de la province du Kasaï occidental a reçu la demande de la DGI qui compte construire un immeuble à 4 niveaux ici au Kasaï occidental. Ce vieux bâtiment a été ciblé pour être détruit et en contrepartie, la division des cultures et arts devait bénéficier d'une construction pour loger tous ses services. Un contrat a été signé entre la DGI et la division à travers la province puisque la division est dépourvue de la personnalité juridique. Un montant de 2 000 $ a été décaissé et mis à la disposition de la division pour se loger momentanément en attendant qu'on lui construise un bâtiment. Au moment où je vous parle, elle est déjà logée. Le service de musée, on lui a trouvé un bâtiment au niveau du grand bâtiment administratif qui héberge plusieurs services. Nous avons tout intérêt à le protéger.
Signalons que le musée national de Kananga est logé dans ce bâtiment depuis 1957 et garde plus de 800 objets historiques. Voilà qui met fin à cette première édition du journal en français sur Radio Capi. Merci à tous de l'avoir écouté. Oh, Capi. Oh, Capi. Ayo. Oh, Capi.